Beaucoup de gens espèrent au Québec que le déconfinement progressif mais réel va arriver au mois de mai. Pensez-vous que c'est une bonne option?
Oh, mais c'est, assurément, il faut déconfiner. Tout le monde a parlé des effets indirects de l'épidémie, autant économique que l'effet du confinement lui-même sur la santé et les autres effets indirects, que ce soit la possible surmortalité qu'on peut observer avec des patients qui ont d'autres maladies. Alors, c'est certain qu'il faut déconfiner. Alors, lorsqu'on déconfine, ça a été bien dit, on augmente les contacts, forcément. C'est les mêmes contacts qu'on essayait de réduire par le confinement. Alors, ce qu'il faut penser, c'est comment on va compenser pour ces contacts-là qu'on augmente. Je pense que la plupart des pays, et c'est aussi la stratégie que le Québec vise, c'est de tester, augmenter les tests de dépistage, tracer, faire le suivi de contacts, isoler, que ce soit par des outils technologiques, des nouveaux outils numériques qui peuvent sortir, soit par du suivi de contact par des apps, des applications, ou le bon vieux suivi de contact qui se fait par l'épidémiologie de terrain. Alors, c'est sûr que on va surveiller. Je dois dire, c'est là un peu le défi, parce que comment on s'aperçoit que, on a ouvert, pour utiliser l'expression du premier ministre, on a ouvert le robinet un peu trop grand. On s'en aperçoit, on va voir à un moment donné qu'il y a un peu plus d'hospitalisation, un peu plus de décès, ça augmente. Alors, d'une journée à l'autre, on ne verra pas des augmentations dramatiques, mais on va voir 3-4 de plus. Dans telle région, un peu plus d'hospitalisation.
Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie, qu'on va l'atteindre ou on est dedans?
Non, en fait, ça veut dire que l'épidémie repart.
Okay.
On augmente les contacts et l'épidémie va tout simplement repartir. Et ce qui est difficile, c'est que lorsqu'on voit les hospitalisations arriver, augmenter, c'est des infections qui ont lieu probablement 10 jours ou 2 semaines avant. Donc, on est déjà un peu en retard lorsqu'on veut réagir. Et l'image que j'aime utiliser dans ce cas-là, c'est imaginez vous conduisez une voiture sur l'autoroute, puis lorsque vous tournez le volant, ça prend 2 semaines avant de réagir. Alors, c'est un peu la même chose. Alors, on peut voir que c'est très difficile de s'en aller dans une direction lorsqu'on est obligé d'attendre. Là, on ouvre le robinet. Et on va être obligé de voir d'ici 2 ou 3 semaines quel effet ça donne.
Le gouvernement mise sur cette théorie d'immunité collective. En fait, est-ce qu'elle est valide, en fait, cette théorie?
Je pense qu'ils ont été clairs lundi et mardi. Je pense qu'ils ont dit ça jeudi. Je ne sais pas, c'était clair que ça a été dit jeudi dernier, mais là ils ont fait marche arrière. Là, c'est, l'immunité collective, c'est plus l'objectif du gouvernement au Québec. Là, je pense qu'ils se sont fait un peu, tant au fédéral par l'OMS, dire non, ça peut pas être un objectif premier. Alors ça, je pense qu'ils ont fait, avec raison, marche arrière. Et ils étaient clairs aujourd'hui, là, du moins je l'ai écouté dans la conférence à 13h, c'était clair que c'est le début, là. C'est plus un objectif du Québec. Là.
Vous étudiez les virus depuis très longtemps, vous avez travaillé sur le sida, sur Ebola. En fait, est-ce qu'on sait pourquoi le coronavirus se propage aussi rapidement et pourquoi il est si protéiforme?
Le virus vient probablement, mais il y en a qui vont dire vient assurément, de la chauve-souris. Et il faut comprendre que la chauve-souris, c'est le mammifère sur la planète qui a le meilleur système immunitaire, le plus solide. Alors, c'est sûr, là, c'est un virus qui a probablement appris à fonctionner ou à se battre contre un système immunitaire excessivement performant. Et là, on hérite de ce virus-là chez l'humain, et assurément, on n'a pas le même système immunitaire que la chauve-souris. Ça risque d'être excessivement difficile. Autant, ça veut dire autant pour trouver des antiviraux et autant pour trouver un vaccin. Alors, c'est sûr que là, il va falloir trouver des solutions. Tout le monde souhaite un vaccin le plus rapidement possible, c'est clair. Mais je pense qu'il va falloir faire attention à dire, pas promettre que ça va venir dans 9, 12 ou même 18 mois. Ça peut être excessivement difficile. L'exemple du VIH, par exemple, je me souviens, moi, dans les années 2000, quand j'ai commencé sur la prévention du VIH, j'avais des collègues qui travaillaient sur les vaccins, puis ils me disaient, tu perds ton temps, là, on va trouver un vaccin là, d'ici 2-3 ans. Viens travailler avec nous du côté vaccin. Ça, c'était il y a 20 ans. Et on n'a toujours pas de vaccin pour le VIH. Alors, ça peut être très, très difficile. Il y a eu des bons. D'un autre côté, on a eu quand même des bons succès pour l'Ebola. Il y a quand même un vaccin très efficace qui a été développé. Donc, je suis comme tout le monde, j'aimerais bien avoir un vaccin qui apparaisse, mais je suis aussi conscient que ça peut être excessivement difficile. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de personnes ou il y a beaucoup de comment dire, au gouvernement, on a peur de la deuxième vague, le spectre de la deuxième vague s'en vient bon, je peux comprendre, déjà la première vague, ça nous a fait excessivement mal, sauf qu'on n'est pas dans la même position. C'est sûr que lors de la première vague, il y a eu une longue période d'adaptation collective. Que ce soit le télétravail, l'école à distance, la fermeture des commerces, les services non essentiels, la liste est longue, même l'approvisionnement en équipement de protection, en matériel médical, ça a été un enjeu. Il y a eu des ratés, il y a eu des ajustements, mais il faut dire que pour la deuxième vague, si ça arrive, on ne la souhaite pas, mais on est nettement plus préparé. Je veux dire, on n'aura pas perdu toute cette expérience collective-là.
Bien sûr.
Ça, c'est des acquis, et on va pouvoir mettre ça en place. Alors, si jamais on déconfine, puis on s'aperçoit que ce soit en octobre, ou que ce soit en septembre, on sait comment faire. Donc, moi, je suis plutôt optimiste de ce côté-là, parce que je me dis, OK, si on a à refaire ça, là, la première fois, bon, il n'y avait personne qui avait cette expérience.
Et puis, au Québec aussi, excusez-moi de vous couper, on avait aussi tout ce qui se passait, les exemples de ce qui se passait en Europe. On a pu voir venir aussi.
Ouais, mais même à ça, à l'Europe, ils ont eu un peu les mêmes problèmes avec les personnes âgées, ainsi de suite, qu'on a expérimenté ici. Mais là, franchement, on sait comment faire pour arrêter ça assez rapidement. Donc, j'ai quand même confiance que si jamais elle se pointe, cette deuxième vague-là, et là, le gouvernement a dit, OK, là, malheureusement, il faut s'en rendre, faut stopper nos contacts. On sait comment faire. Et je pense qu'on ne souffrira pas autant que la première fois parce qu'on va pouvoir arrêter assez rapidement une deuxième vague avant qu'elle se propage à un niveau où là, on rattrape. Il y a eu des délais au départ, il y a eu l'adaptation de la population. Il y avait encore, je me souviens qu'on a fermé les écoles au Québec le 15 mars, à peu près dans ce coin-là. Il y avait encore des gens à l'aéroport qui partaient. Il y avait certains segments de la population qui se demandaient ce qui se passait. Il n'y avait quasiment pas de cas, il n'y avait quasiment pas de décès au Québec. Mais là, tout le monde, je pense, a compris. Et si jamais le gouvernement met dire OK, là, il faut limiter les contacts parce que ça s'en va dans une direction vers une deuxième vague, ben on sait comment faire.
Justement, est-ce que limiter les contacts, est-ce que bon, il faut se laver les mains? Est-ce que le masque, en fait, c'est une des solutions?
Mais je pense qu'il faut pas. C'est une parmi tant d'autres. Je pense que la solution qui aiderait énormément, que ce soit, comme je dis, que ce soit une innovation technologique ou que ce soit de la bonne vieille épidémiologie de terrain, c'est vraiment les tests de dépistage, tracer les contacts très, très rapidement, puis isoler ceux qui sont infectés. Alors ça, c'est cette stratégie-là qui va nous aider, permettre à maintenir les écoles déconfinées puis l'industrie, repartir l'économie, si on peut mettre ça en place assez rapidement. L'avantage, c'est qu'on peut se permettre de tester les innovations technologiques à ce niveau-là parce que on peut se replier sur l'épidémiologie de terrain, comme on a fait. Ça prend juste la main d'œuvre, sincèrement, pour retracer des gens rapidement, et ainsi de suite. Alors, si je regarde des épidémies comme en Ebola en Guinée ou au Congo, on était très, très efficace pour le tester et faire du suivi de contact. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de main d'œuvre. Donc, au moins, on peut se replier sur la main d'œuvre pour nous aider jusqu'à temps qu'on a évalué, regardé, régler peut-être les enjeux éthiques, ainsi de suite. On n'est pas obligé, à mon avis, de vraiment, vraiment se précipiter pour mettre en place des outils technologiques pour nous aider dans le suivi de contact dans 2-3 semaines. Je pense qu'en attendant, on peut mettre, comme je dis, des ressources humaines.
Donc vous, ces applications anti-pandémie, c'est quelque chose que vous êtes contre, en fait, ces applications anti-pandémie? C'est quelque chose...
Non, pas du tout. Non, d'accord. Non. Parce que si ça peut nous aider, le virus est plus rapide que nous. Alors, si du suivi de contact nous prend 2-3 semaines à faire pour retracer tous les contacts, on va toujours être en arrière du virus et on n'arrivera pas à comment dire, à étouffer l'épidémie assez rapidement. Alors, c'est sûr que, à mon avis, les outils technologiques peuvent nous aider à réduire ce temps-là où on n'est pas si loin en arrière du virus. Ce qu'on veut rattraper, c'est quelqu'un qui vient de s'infecter il y a 2-3 jours. Puis là, hop, on l'isole. Donc, il n'y a pas eu le temps de vraiment transmettre à personne. Mais c'est sûr, si ça nous prend 2 semaines de retracer tout le monde qui a eu un contact à un infecté, ben là, c'est sûr que on est en arrière. Et c'est là, on sait présentement ce qu'on savait pas au début de l'épidémie. On sait présentement qu'il y a de l'infection qui se fait parmi ceux qui n'ont aucun symptôme.
Bien sûr, les asymptomatiques, en fait, oui. Je vous remercie, en fait, Benoît Masse. Merci. Donc, on a bien compris, en fait, du déconfinement avec peut-être des outils, des applications technologiques et aussi beaucoup de tests. C'est ce que vous dites.
Oui.